Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2026 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis BenoFX et je suis accompagné d'Elodie. Salut Elodie.
Salut BenoFX.
Ça va ?
Ça va pas mal.
On est samedi, ça commence à tirer, mais tout se passe bien.
Tout à fait.
Et nous accueillons pour cette interview Maeva Da Silva. Bonjour Maeva.
Salut tout le monde.
Tu vas bien aussi ? La fatigue commence à...
La fatigue commence un peu, mais ça va.
Super. Avant de commencer, on va faire notre traditionnel fil rouge et les quelques questions qu'on pose à tous nos invités.
Alors, si tu étais une mécanique de jeu, ce serait laquelle ?
Oh, là, comme ça, c'est dur en vrai. Mais si j'étais une mécanique de jeu, je pense que je serais plus dans le jeu de rôle.
Si tu étais un thème de jeu, lequel serais-tu, s'il fallait n'en choisir qu'un ?
J'aurais mis un jeu sur la poésie. Okay. Pas quelque chose qu'on voit souvent, mais...
Ouais, intéressant.
Si tu étais un élément de jeu ?
Un dé.
C'est cohérent avec la première réponse.
Et si tu étais un jeu, tout simplement ?
La sortie, là, récemment, Warden King, ça m'aurait bien plu, ouais.
Ok.
Et sinon, donjons et châteaux.
Évidemment. On va passer à l'interview. Avant de commencer, on tenait à te dire qu'on est super heureux de t'accueillir parce que ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir chez Proxy Jeux.
Ouais.
Je dirais même vous avoir parce que t'as partagé ton activité d'illustratrice pendant longtemps avec Christine Deschamps.
Oui.
Qui nous a malheureusement quitté il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Et voilà, on voulait dire aussi qu'on pense toujours bien à elle. Mais du coup, avant de commencer, Maeva, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas encore ?
Oui.
De manière générale, qui es-tu, Maeva ?
Tout d'abord, merci pour le petit mot pour Chris. Je suis une illustratrice. C'est comme ça que, en fait, les personnes m'ont connue ou m'ont rencontrée au début du jeu. Donc, j'illustre principalement, bien sûr, depuis plusieurs années maintenant, et j'ai été embarquée par la maison d'édition Libellude pour prendre la direction artistique il y a 6 ans maintenant. Et donc, j'ai les deux casquettes.
Illustratrice et directrice artistique chez Libellude.
Oui.
Est-ce que tu peux nous faire un résumé de ton parcours en tant qu'artiste ? Comment t'es arrivé ? Comment t'as commencé à créer ?
Oui.
Et comment est-ce que tu t'es retrouvée dans le monde du jeu de société ?
Je pense que le langage artistique, qu'il soit musical, plastique et autre, a toujours été un langage pour moi évident, plus que le langage verbal. Donc, j'ai fait des études littéraires et après mon bac, je voulais vraiment partir soit en langue, soit en art. Je savais pas du tout dessiner. Moi, je faisais de la musique vraiment quand j'étais petite. Et donc, j'ai appris à dessiner, j'ai fait une école. Voilà, j'ai fait mes 5 ans, je fais ma thèse. Et puis, à la sortie d'école, je me suis mise en indépendante. Et à l'époque déjà, puisque j'ai 40 ans maintenant, mais à 23, je pars mon book sous le bras dans des salons. Et c'était au milieu de la Japan Expo, je me souviens, un petit stand de jeux de rôle dans un coin. Et je rencontre le directeur du magazine Jeux de Rôle Magazine, qui voit mon travail, parce qu'on parle de jeux de rôle du coup, et qui me demande si je veux illustrer des scénarios à l'intérieur du magazine. Et donc, ça se fait. Et puis, je découvre le milieu du jeu de manière plus large, en fait, du jeu de société. Je fais d'autres salons.
T'étais déjà joueuse toi-même avant ou...
J'étais joueuse de jeux vidéo.
Ok.
Voilà, vraiment, là, depuis toute petite. Et en dehors de ça, je sors d'école de dessin. Donc, le print, à l'époque, c'était quelque chose qui, moi, me plaît énormément. Le rapport à la matière, voilà. Plus que le digital. Ça, c'est venu bien après. Et le jeu de société, c'est encore un médium, en fait... Où la réalisation finale est physique. Donc, du coup, je me renseigne, je découvre le milieu du jeu de société, je rencontre des éditeurs, je fais des tout premiers jeux, je travaille sur Loup-Garou, je travaille sur Twiggles, je travaille ensuite sur d'autres jeux. Et puis, je n'ai pas arrêté depuis, en fait. J'en ai fait mon métier.
T'as fait le compte du nombre de jeux que t'as illustré ?
Je pense que... Non, mais je pense que je dois être entre 20 et 30, à peu près, on va dire. Plus ou moins bien.
Bah, alors, pour le coup...
Plutôt bien, pour le coup. Hein.
On a fait un résumé, tu as fait un résumé très rapide de ta carrière.
Oui.
Mais... on est obligé du coup de parler un petit peu d'harmonie puisque c'est une œuvre qui est importante pour toi à plusieurs ouais. titres.
Ouais.
Déjà, c'est le premier jeu que tu as illustré en solo depuis puisque tu travaillais beaucoup avec Christine depuis que Christine nous a quitté.
Ouais.
Et on peut imaginer que ça doit être assez fort émotionnellement. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment on passe justement du travail en duo à quatre mains à un travail en solo puisque ça doit être
ouais.
assez différent dans l'approche, j'imagine.
Ouais, c'est un bon pont en fait, harmonie et ce qui s'est passé dans et ma vie pro et ma vie perso, parce que en quatre mains, on avait des manières de travailler qui étaient aussi optimisées l'une et l'autre, l'une à la couleur, l'une au trait, où les refs, où les idées se faisaient ensemble. Il y avait vraiment une émulsion aussi de dans les concepts, ce genre de choses, dans la narration, dans de l'or, de choses comme ça. Lorsque c'est arrivé, j'ai pris un temps de pause justement dans le milieu professionnel du dessin. Je me suis bien sûr demandé si j'allais continuer à dessiner parce que beaucoup de souvenirs forcément. Et puis en fait c'est ce que je sais faire, hein, mais quand même beaucoup de questions sur qui on est en solo. Alors qui on est, enfin c'est une grande question, hein, comment je m'exprime et les designs, comme je le disais, c'est enfin le dessin, la peinture, c'est un langage, hein, à part entière, c'est pas juste pour habiller des choses. On fait passer beaucoup de choses à travers ça. Et harmonie, quand je teste la mécanique de jeu, Joanne, pour moi, m'offre un bac à sable immense, qui allie à la fois de la construction, de l'imaginaire, des histoires qu'on peut se raconter. Il y a vraiment beaucoup d'entrées possibles avec ce jeu. Ça touche quelque chose en moi. Ça touche quelque chose qui s'est réveillé, qui était là, mais qui était un peu
en sommeil.
Voilà, exactement. En sommeil depuis un petit moment. Et j'y vois quelque chose de très vivant. Et alors forcément, à côté de ce que je viens de vivre, il y a une étincelle quoi qui s'ouvre et je me dis ah là il y a encore ça en moi, puisque forcément je me sens réveillée. Et là, harmonie, c'est vraiment. En interne, hein, je prends la direction artistique du jeu et j'en propose quatre d'ailleurs. Et puis il y en a une qui est faite par moi, illustrée par moi et que je ne peux pas diriger en extérieur, à l'extérieur. Et je la propose à l'équipe sans dire que c'est moi forcément au même titre que les autres, hein, parce que j'essaie d'être le plus juste pour le jeu. Et c'est celle-là qui touche. Je me dis mince, c'est ça là qui touche. Et donc du coup, on se dit bon, il faut vraiment accorder un temps en interne pour pouvoir dessiner. Et à ce moment-là, pour moi, il y a quelque chose de très fort qui se passe aussi, c'est que je me rends compte que, contrairement à Christine d'ailleurs, qui travaillait beaucoup à la line et au dessin, moi je travaille en touche, en couleur, en masse, sans cerner, sans ligne, voilà. Et là, je savais déjà qu'il y avait quelque chose qui n'était pas entièrement moi dans le quatre mains, forcément. Mais là, il y a quelque chose un peu qui se révèle, et c'est notamment ça. Et donc, je comprends pourquoi j'aime vraiment les impressionnistes. Je comprends pourquoi la touche parle de l'émotion que j'essaye de peindre en fait, plus que de ce que je vois. Voilà. Et c'est comme ça que naît Harmonie. En tout cas.
La carte des loutres d'Harmonie. Je pense que c'est l'une des illustrations de jeux de société qui m'a le plus touchée.
Ah oui.
Quand je vois cette carte des loutres, j'ai envie d'être à leur place. Je trouve qu'elles ont l'air tellement bien. Tellement sereine que cette carte me fait du bien à chaque fois que je la vois. Donc merci énormément.
Je t'en fais. ça me touche ce que tu dis parce qu'Harmonie, c'est vraiment dans un thème universel. Comment arriver, c'est même pas comment arriver, c'est comment j'ai réussi, je pense du coup, à venir toucher l'intime chez chaque personne. Comment chacun peut trouver sa place au sein d'Harmonie, son espace. Et ça, c'est incroyable. Et je pense vraiment que dans l'universalité, on peut vraiment aller chercher quelque chose de très intime. On n'est pas cliché parce qu'en fait, on a des fondations en tant qu'humain qui sont communes en fait à nous tous. Et je crois qu'Harmonie parle ce langage-là. Voilà. Et c'est fou, de tous les témoignages que je reçois encore aujourd'hui, 2 ans après la sortie du jeu, ça ressort vraiment. Et pour moi, c'est fou parce que c'est sans connaître les gens et à l'autre bout du monde, je reçois des messages assez incroyables sur l'art. C'est vraiment une manière d'être en lien sans connaître les gens, ce qui se passe avec Harmonie. Voilà.
Et concrètement, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as travaillé dessus, des deux côtés, du coup, en tant que directrice artistique et en tant qu'artiste, pour que nos auditeurs et auditrices comprennent la différence entre ces deux métiers aussi,
bien sûr.
C'est le premier jeu sur lequel tu avais les deux chapeaux, enfin les deux casquettes simultanément, ou tu avais déjà illustré des jeux dont tu as assuré aussi la direction artistique?
Alors, je vais pas être très tendre là-dessus, mais dans le sens où je n'ai eu que le statut d'illustratrice sur les autres jeux que j'ai faits, mais la direction artistique n'était pas vraiment présente. Elle est prise par des gens puisqu'il n'y a pas de, ce métier n'était pas représenté. Il n'y avait pas d'employés qui étaient dédiés dont c'était le métier. Donc, la direction artistique était prise, mais il n'y avait pas de directeur ou directrice artistique à proprement parler. Et donc, il y avait beaucoup de lacunes là-dessus, forcément. Donc, il y avait beaucoup d'illustrateurs qui prenaient ce chapeau sans être considérés comme tels. Donc, ça a pu se passer, mais du coup ça venait se confronter avec d'autres visions. Enfin, c'est assez complexe. Et Harmonie, c'est vraiment là, j'ai géré de A à Z, voilà, les deux chapeaux. Et donc, pour te répondre sur la différence, de manière très rapide, l'illustration, c'est une composante de la direction artistique. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses qui comprennent la direction artistique. De manière générale, je te dirais que la direction artistique touche toute l'incarnation physique du jeu. C'est-à-dire que le jeu, on reçoit, c'est une règle écrite qui est mise sur papier. Et pour que cette règle devienne jouable, devienne un jeu, il faut qu'elle soit matérialisée. Et il faut qu'elle soit matérialisée avec des matériaux, quels qu'ils soient, des matières. Et il faut qu'elle soit ce matériau soit géré dans l'espace. Il faut que le rythme soit géré. Il faut, voilà, il y a plein de choses. Et bien sûr, donc on va chercher des formes, on va chercher des couleurs, on va chercher des matières, on va chercher des tailles, on va chercher des emplacements. On va chercher de l'ergonomie, on va chercher et tout ça.
Ça se rapproche presque un peu de l'architecture finalement.
Oui.
L'architecture appliquée à l'objet jeu de société, quoi.
Exactement. Et donc dans un premier temps, concrètement dans les étapes du jeu, du développement en fait, lorsqu'on reçoit un prototype, moi je touche pas du tout un crayon avant un long moment. Et on va faire ce qu'on appelle, j'ai instauré vraiment des temps de R&D, de recherche et de développement, j'essaie qu'ils soient le plus imbriqués possible avec le dev mécanique. On va avoir déjà donc des premières sessions de jeu où moi je vais pouvoir regarder et analyser la création que j'ai sous les yeux. Et typiquement pour Harmonie, donc c'est une mécanique abstraite qui était représentée par du matériel abstrait. Et je me suis posé vraiment la question, est-ce que en fait une mécanique abstraite doit être représentée par une abstraction visuelle, puisque le visuel est soit une aide à la compréhension, enfin est à la fois une aide à la compréhension par de l'habillage, par de l'illustration, par des choses plus graphiques, des choses plus figuratives, etc. Si cette illustration doit être narrative, si cette narration est une narration d'immersion, si cette narration est une narration de gameplay, j'observe ce qui se passe entre les joueurs, le langage non verbal, j'observe beaucoup de choses. Seulement après, on va donc là je commence à réfléchir un petit peu, mais je touche pas de crayon. À la limite, je pose des mots en fait sur ce qui se passe, sur des émotions, parce qu'en fait moi mon but c'est pas faire des images qui marchent ou pas de faire joli, de rendre le jeu joli. C'est vraiment de proposer une expérience, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on cherche, hein. C'est voilà, des mécaniques qui marchent et des illustrations qui sont jolies, il y en a plein.
Oui,
c'est pas du tout ce qui m'intéresse.
Faut provoquer de l'émotion.
Voilà, le beau pour le beau, l'original pour l'original, je m'en fiche. On en a déjà bien assez, ça porte pas grand-chose. Donc du coup je cherche tout simplement à être vivant dans les créations en fait, hein. Ensuite, on va se poser ensemble avec l'équipe et on va poser un document éditorial qui est-ce que le jeu rentre dans une telle ligne éditoriale, est-ce que il serait compris entre telle et telle tranche financière, quoi, le prix qu'il pourrait coûter, en combien de temps il se joue, etc. Et ça, pour moi, ce sont des éléments qui sont très importants, puisqu'en fait ça va définir le cadre après de développement, à la fois le cadre graphique et à la fois le cadre mécanique. Mais comme chez nous on imbrique les choses pour que l'expérience soit la plus fluide et la plus cohérente en fait la plus totale. Il faut que tout le monde ait le même degré d'information pour développer en connaissance des autres corps de métier, justement, et bien comprendre les enjeux. Ensuite, on va poser ensemble des premières idées de thématiques, si la thématique n'est pas vraiment intrinsèquement liée à la mécanique qui nous est proposée. Des fois, ça arrive, des fois, on peut changer ça. Typiquement, Tech Time, le temps faisait extrêmement sens avec la mécanique, et Harmony aussi, mais on a pu se poser la question. Et ensuite, sur une thématique, même thématique, si je vous dis les Vikings, on peut le faire à l'Assassin's Creed ou on peut le faire à la Dragon de chez DreamWorks. C'est pas la même chose. Pourtant, c'est la même thématique. Et c'est là où va venir la direction artistique plus précisément. Donc là, on va parler de style, on va parler de touche, on va parler de texture, de couleur, de shape, de forme. Voilà. Et Harmony, donc je vous l'ai dit, il y a eu au total donc 5 propositions de direction artistique qui étaient vraiment des choses assez différentes. Mais je vous donne un exemple sur les animaux, qui sont des animaux et des paysages d'ailleurs, hein, qui sont pour moi des personnages à part entière, les paysages, ils sont tous autant vivants que les animaux. Mais on s'est beaucoup posé dessus parce qu'on s'est aperçu que c'était une entrée très très forte pour commencer le jeu, notamment sur une cible qui est plus familiale qu'initiée. Si on aime les loutres, on va plutôt prendre les loutres et on va essayer de construire après son paysage autour de ça. Qu'on gagne ou qu'on perde, on s'en fiche un peu, on a passé un bon moment et c'est plutôt la force d'Harmony d'ailleurs. Et du coup, ben, représenter un animal en portrait, c'était quelque chose qui était intéressant parce qu'il y a un lien qui se crée avec l'humain. Et donc, le gros plan, pour moi, était une des premières pistes proposées. Et la frame, le cadre qui entourait cet animal, était plutôt lié au paysage. Donc, un animal qui émergeait d'un feuillage ou un animal qui émergeait de la pierre. C'était pas juste un cadre hein, autour, c'était vraiment des choses imbriquées dans le dessin. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose de fort. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des difficultés de représentation ou de projection du paysage avec les jetons qui étaient très abstraits. Donc, il y avait besoin d'être plus figuratif sur la représentation et ce que tu étais en train de construire, en fait. Aider à la projection, en fait, les gens. Donc, en fait, le dessin des décors était important. Voilà, on a vraiment... J'ai vraiment pris plusieurs axes en fait, pour proposer des choses. Et l'axe que moi j'ai présenté, qui a des prix que vous voyez au final, hein, il y a un petit côté aussi en plan, pas de perspective, mais un jeu de plan comme ça, un peu théâtral que j'aime bien. Il y a un petit côté
calque
les uns par-dessus les autres, ouais, parce que le réalisme ne m'intéresse pas vraiment. C'est marrant, il y a une dame qui m'a dit, mais pourquoi vous avez amené les animaux, ça ressemble pas à ça, pourquoi vous avez fait ça comme ça? Et je lui dis, mais parce que moi, si je veux voir un éléphant qui ressemble à un éléphant, soit je fais un voyage en Afrique ou en Asie, soit je vais au zoo. Enfin, j'irai pas au zoo, mais...
on voit le principe.
Et voilà, je fais pas ça pour ça, en fait. C'est pas du tout ce que je trouve intéressant. Et ouais, ça, c'était rigolo. Et voilà. Et puis après, moi, je vois en couleur. Hein, donc, les contrastes, ce jaune, ce bleu, ce rond dans cette boîte carrée pour la cover, par exemple, ça vient avec ce que m'évoque les contrastes de la vie, de la mort, de la tristesse, de la joie, ce lion qui est tout seul, mais qui en même temps est en meute. Et donc, oui, ce lion, il représente, je l'ai pas écrit, en fait, à partir d'une histoire, on me demande souvent, mais pourquoi il a cette crinière bleue? Qu'est-ce que c'est son histoire? Et moi, je peins les sensations, ça sort comme ce que je ressens. Et quand je pense au lion, je pense à la dualité qu'il représente. C'est pour ça qu'il est, assez, il est solo sur son champ, là. Il est fier, mais en même temps, il est très apaisé. Et pourtant, c'est un animal féroce, sauvage. Mais on dirait qu'on pourrait être à ses côtés, tellement, on se sent bien. Il a cette crinière ronde dans cette boîte carrée. Il a cette crinière qui est bleue peut-être qu'il est plus triste parce qu'il est solitaire et en même temps il y a le soleil derrière qui est jaune en complémentaire qui contraste, qui rayonne. Voilà, je pense vraiment les choses comme ça en fait. Je les tombe comme ça, je les vois comme ça. Et on m'a souvent demandé aussi, c'est plutôt les adultes ou les éditeurs qui m'ont dit t'as pas peur que ça fasse trop enfantin quand tu l'as fait, etc. Et je dis mais il y a une grosse différence, cette image, elle est pas, c'est pas une scénette enfantine qui raconte une histoire. c'est que en fait c'est tellement un langage de traces comme ça, de formes universelles que tout le monde possède, ça vient faire écho à l'enfant chez l'adulte. Et c'est une énorme différence. Et parce que si on prend vraiment le langage pour enfants, harmonie c'est chargé, il y a beaucoup de textures, il y a beaucoup d'informations à comprendre, c'est pas pour les enfants.
C'est pas accessible immédiatement pour un enfant.
Voilà. Harmonie, il y a plein de choses.
Non mais c'est super intéressant, et justement je me dis comment est-ce que c'est pas trop difficile d'avoir à la fois la casquette de Déa où tu dois avoir des considérations qui sont très concrètes, très contraintes par rapport à l'objet, jeu de société, etc. Et à la fois la casquette illustratrice, où là, ça va plus être l'expression de ton art, quelque chose de plus émotionnel, et il faut réussir à faire rentrer l'un dans l'autre quelque part. Et donc, est-ce qu'avoir les deux casquettes, ça, à un moment, est-ce que tu n'es pas tiraillé entre les deux?
C'est rigolo que tu dises ça, parce que... Je me suis beaucoup posé la question, mais assez jeune. Hein, c'est quelque chose qui s'impose, je pense, aux illustrateurs et aux artistes de manière générale, mais surtout aux illustrateurs, qui est mince. Mon identité se définit par qui je suis, se définit par le style que je montre. Et pour moi, je le ressens pas du tout comme ça. Mon art, il est vivant. Et il est vivant de différentes manières. Et j'ai aussi appris le dessin par l'art appliqué. Et c'est seulement après que je suis arrivée par la peinture à une expression libre. Et harmonie, c'est pas de l'art dans le sens où ça n'est pas un processus créatif libre. Exactement. Ça n'est pas un processus qui est dénué d'utilité. C'est un processus créatif qui doit fonctionner à un certain endroit et qui est sous contrainte, effectivement, mais ça n'empêche pas la créativité. Ce sont deux choses différentes. Et donc, je suis familière avec ces procédés-là, même très familière, et pour moi, ça a été d'une fluidité incroyable. En fait, personne ne m'a embêté. Tout le monde m'a fait confiance. Ça, c'est génial. J'avais beaucoup de gratitude pour ça. Mais c'est aussi que j'ai posé, du coup, des jalons aussi très, très clairs et très cohérents depuis le début dans le pipeline, en fait, de production. Et tout était fluide. Tout était logique, en fait. Et pour moi, c'était très clair dans ma tête. Et parce que les balises sont très claires, l'espace de liberté que j'ai à l'intérieur de ces balises, il n'y a pas d'accroche, je ne sais pas comment te dire, en fait. Je savais le cadrage, je savais l'espace que j'avais, je savais les couleurs que je devais exploiter par rapport au token rouge, jaune, bleu, vert, etc. Et en fait, c'est comme quand tu apprends à conduire, quoi, la mécanique, enfin, les pieds, c'est OK, tu te concentres sur la route. Bah là, la peinture, ça allait, je me concentrais là-dessus, mais le cadre dans lequel j'étais, la technique... comment dire, les contraintes techniques que j'avais, c'était assimilé et j'y pensais plus une fois que je peignais, en fait. Ouais. Et ça rentrait dedans, ça matchait, tu vois.
Et les contraintes, des fois, même, aident à la création, parce que en se fixant des contraintes, on a ça alimente la réflexion et les idées.
Oui, en fait, j'ai synthétisé plus vite certaines choses et du coup, ma pensée, elle était déjà formatée, entre guillemets, tu vois, dans un... Je me suis pas trop éparpillée, du coup j'étais pas en difficulté pour après refaire du tri. J'ai eu quasiment zéro retech, parce qu'à chaque fois je me suis soumis au même la même critique que s'il y avait eu un autre illustrateur sur mon propre travail, mais aussi avec le travail de l'équipe et les playtests avec le game design, l'ergo, etc. Et donc bien sûr il y a cette partie là, mais il y a aussi toute la partie avec Thomas chez nous dans le travail de l'ergonomie, de l'iconographie, de la lecture des différents éléments. Tech Time, c'est pareil.
C'est vrai que le travail d'édition de Libellut, c'est exemplaire et c'est reconnu depuis de nombreuses années sur cet aspect-là, purement éditorial.
Et tu vois, il y a aussi la recherche des papiers, la recherche des cales, de l'impression, c'est vraiment de texture de la boîte, les petits cubes, est-ce qu'ils sont, quelle matière ils sont, et moi j'avais à cœur qu'il y ait une matière un peu translucide qui fasse passer la lumière pour que quand les petits cubes soient posés sur les paysages, qu'ils soient illuminés par l'ambiance réelle qui se passe pour qu'il y ait du lien qui se crée entre le jeu, l'imaginaire et la réalité dans laquelle le temps que tu passes à jouer, en fait. Et ça, c'était, voilà, c'était assez important pour moi. Et jouer avec le soleil qui rentre chez vous à Harmonie, vous verrez. C'est chouette.
C'est vrai que c'était une question qu'on s'était posée au moment où on l'avait joué ici, la première fois, à dire pourquoi les cubes en plastique alors que tout est en bois.
Oui.
Et bah, du coup, je suis ravie d'avoir la réponse.
Voilà. Et en fait, le bois venait vraiment, enfermé, alourdir, ce qu'il y avait déjà du bois. Et en fait, il y a aussi un petit écho pour moi à la cristallisation, cette petite bulle qui représente le cœur de l'animal, puisque c'était bien évidemment trop cher pour représenter tous les petits animaux custom si on devait les poser. Et donc, cette petite idée de cristallisation, là, avec ces petits cubes ambrés, et le souvenir, surtout des animaux qu'on avait peut-être pu croiser dans notre vie, parce que ça vient chercher des souvenirs, en fait. Harmonie, on n'est pas réellement avec les animaux là maintenant. Voilà. Il y avait plein de choses qui étaient un peu connectées pour moi là-dessus. Mais bien sûr, c'est poser la question de, on utilise du plastique et pas du bois, mais du coup, surtout le jeu sur les paper wrap autour, on a fait vraiment attention à ça, au papier aussi utilisé. Voilà. C'est un compromis entre l'expérience, entre les sous, entre le positionnement écologique, bien évidemment, chez nous, sur voilà.
Super. J'ai une petite question sur la reconnaissance du métier d'illustrateur, d'illustratrice,
ouais.
En particulier dans le monde du jeu de société. Ton nom, il est au dos de la boîte, mais il est pas sur la couverture. Pourquoi ce choix? Parce que j'imagine que t'as eu ton mot à dire là-dessus.
Oui. Alors, en fait, c'est quelque chose qui est depuis longtemps acté comme ça dans la maison d'édition, avant même que j'arrive. Et c'est quelque chose qui ne changera pas au juridique, donc d'un point de vue légal, parce qu'il y a des... Je ne connais pas bien les pourquoi des comment, mais en tout cas, pour ne pas, j'imagine, associer la parenté de l'autorat mécanique à l'illustrateur, il y a des contraintes légales là-dessus. Donc, bien évidemment, au-delà de la boîte, il y a aucun souci, parce que c'est vraiment la présentation au premier regard de comment est présenté un jeu, la paternité peut lui revenir aussi.
Okay.
Et bon, il y a aussi, j'imagine, bien d'autres sujets là-dessus. Ensuite, il y a le fait que c'était en interne et pas en externe. Donc moi, il faut savoir que je signe mon contrat et ce que ça veut dire. Et je suis absolument en accord avec ça, hein, bien évidemment. Ils ont été très, ils ont posé la question. Il n'y a pas de voilà. Le deal est vraiment accepté des deux côtés. Moi, tout ce que je fais pour Libellude, en dessin, en concept, en idée, appartient à Libellude. Je suis Libellude. Donc s'il y a marqué Libellude sur la boîte de jeu, il y a marqué Maëva, il y a marqué Thomas, Mathis. Voilà, c'est et bon là. Où j'en suis aujourd'hui, moi, mon dessin, c'est moi. Moi, c'est pas mon nom, c'est pas mon prénom. Voilà. Je suis très, très en phase avec où je suis, comment je suis aujourd'hui. Voilà. Et puis, mais je sais que j'ai eu beaucoup de retours sur ça.
Ouais. Après, on a vu que ça n'empêchait pas non plus la reconnaissance, puisque tu as eu plusieurs prix par rapport à,
oui.
à Harmonie, à ton travail. Il y a eu Montpellier sur le oui. prix de la meilleure illustratrice. Il y a eu le réseau des boutiques ludiques sur Harmonie, oui. Travail d'illustration.
Oui.
Je crois que t'as
le double 6. Oui, il y a plein de.
Ça t'a permis de voyager à l'autre bout du monde aussi.
Oui, je suis invitée aux Philippines pour en tant qu'artiste pour Harmonie. Ils adorent. C'est vraiment mignon. Ouais.
C'est incroyable.
c'est incroyable ce qui se passe avec Harmonie. Ouais, c'est. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent j'avais une carrière d'ingénieur. Il y a encore avant-hier, je montrais à Johan qui me disait j'ai une rencontre avec Harmonie et vous m'avez réconcilié avec l'art digital que je faisais et que j'avais arrêté. Vous m'avez montré voilà. Enfin c'est très touchant, très très touchant pour moi. Ouais. Je mesurais pas l'ampleur. En fait, quand je l'ai fait de tout mon cœur, sans chercher à quoi que ce soit, à part bien incarner la création de Johan. Ouais, c'est assez fou. On se disait encore tout à l'heure, on dédicace tous les deux que c'est
une belle histoire.
C'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle rencontre. Et c'est avec lui et moi et avec le public. Ouais.
Est-ce que la renaissance dont tu parlais tout à l'heure, elle se sent pas dans tes illustrations et que c'est pas ça qui touche les gens?
Ouais, peut-être. Je pense qu'ils ne connaissent pas forcément mon histoire, mais...
Non, mais sans la connaître.
Mais sans oui, la connaître. Non, oui, non, mais sans pense, la connaître oui. et ça infuse. Je pense que l'art est justement, c'est le principe de l'art.
Oui, et tu as raison
c'est
parce que
c'est de quelque chose qui est impalpable. Dans l'éther et qui est pas palpable, mais qu'on ressent quand même parce que comme tu le disais tout à l'heure, on a tous une essence commune.
Oui, oui.
Et c'est un sens commun qu'on ressent en voyant tes illustrations, je pense.
Oui, oui, oui. J'ai ce témoignage là aussi. C'est très vrai.
On arrive presque au bout de l'interview, mais je voulais juste te poser une petite question aussi. Tu es assez clair, en tout cas personnellement, sur ta position par rapport à l'IA générative.
Oui.
Qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça risque concrètement de changer dans ton métier aujourd'hui ou dans le métier d'illustrateur, d'illustratrice? Et surtout, qu'est-ce qu'une illustration humaine a, justement, que l'IA n'a pas? Je crois qu'on a déjà répondu à cette question juste avant.
Ouais.
Mais voilà, si t'as des éléments supplémentaires.
On peut trouver une image belle, on peut trouver une image efficace, mais je pense que ce qui nous touche et ce qui est de l'ordre de l'indicible, ce que tu disais, ouais, de l'indescriptible, c'est l'humanité derrière. C'est pas juste une question de jolie composition, de jolie couleur, c'est... En fait, on peut ne pas se poser la question, mais moi, ce qui m'intéresse, enfin, quand je regarde quelque chose qui me touche, je me dis, oh, l'humain qui a fait ça derrière, je dois avoir quelque chose en commun avec lui. En fait, c'est ça qui est incroyable.
Ouais.
C'est pas tant l'image que ce qu'elle provoque, en fait, qui est incroyable. Et c'est l'humain derrière qui provoque ça, en fait. Et il faut se souvenir de ça. Et, enfin, moi, c'est ce qui me touche. Parce que la machine peut faire des images et l'image va me provoquer des choses incroyables. Mais, c'est sec un peu. Je sais pas comment vous le dire. C'est pas ce qui me fait résonner.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et en fait, donc il y a cet aspect-là. Bien sûr, après, il y a l'aspect, les deux grands sujets qui sont le vol de la propriété intellectuelle et l'écologie au niveau de l'IA générative, hein, parce qu'il y a d'autres formes d'IA, mais la générative. Et pour répondre à, dans mon métier, alors, Libellude, alors, et personnellement, et au sein de Libellude, moi, je suis très, très claire, effectivement, il y aura pas l'utilisation de l'IA. En tout cas, sous la forme qu'elle a aujourd'hui. Parce que l'IA est partout, hein, dans nos outils, sous Photoshop, Par contre, je le vois, en fait. Moi, je ne sais pas comment. Je peux pas arrêter l'IA, en fait. Ça se répand, en fait, à une vitesse folle. Ce que ça va changer, c'est que, je le disais tout à l'heure, dans un système qui est un art appliqué à un médium qui vit sur un marché avec beaucoup de contraintes qui n'a pas de rapport avec la création libre, sur du gain de temps, du gain de la production, je vois comment, en fait, ça va être difficile d'y échapper, en fait. Parce que c'est concurrentiel, parce que ce soit dans les devis pour les illustrateurs, je vois à quel point c'est compliqué et si...
Il y a une forme d'impuissance, en fait, sur l'arrivée de ça, quoi.
Oui, et à moins d'arriver vraiment à en faire, je sais pas, un outil, et encore, ça n'enlèvera pas le positionnement écologique, les gros soucis avec lesquels... Enfin, c'est pas du tout OK, en fait.
Ouais.
Mais voilà. Après, c'est une question de positionnement éthique, humain, propre à chaque maison d'édition, propre à chaque personne qui sera face à ce choix-là. Mais c'est aussi de plus en plus dur. C'est rigolo. Il y avait une illustratrice avec qui j'étais en rendez-vous hier qui me disait, mon illustration, il y a 4 ans, il y avait pas d'IA. Aujourd'hui, je la passe pour savoir si on me dit que c'est une image issue d'IA. Et à 70% ou 80%, on me dit que oui. C'est pour voir. C'est pour montrer à quel point l'IA se nourrit de choses et à quel point la différence va être difficile aujourd'hui, ouais. Notamment sur des médiums qui sont très digitaux, en fait, dans le painting.
Ouais.
Et ça, c'est très difficile. Et voilà. Mais moi, quand je vais recevoir des en dehors de le marquer contractuellement, c'est vrai que l'œil humain, j'ai vu des choses
C'est compliqué de faire la différence.
Assez folle en painting de faire la différence. Alors il y a des trucs qui sont flagrants, bien évidemment, mais ça demande une culture graphique et visuelle super importante. Et aujourd'hui, les gens qui sont nés avec le digital ou avec ça, c'est compliqué. J'ai la chance d'avoir une génération millénaire, comme on dit, qui a connu l'avant réseau, l'avant internet, etc. Même si c'est incroyable internet, mais voilà. Donc il faut être assez vigilant. Et je pense que pour le métier de directeur artistique, il faut junior. Je pense que ça n'existe pas un directeur artistique réellement. Je pense que
C'est un recul sur.
Il faut un recul assez fou. Il faut une connaissance assez folle. Faire de la direction sans connaître son milieu, en tout cas dans l'artistique, je trouve que c'est compliqué. C'est de la gestion structurelle, mais de la gestion de terrain, je n'y crois pas vraiment. Donc voilà, c'est un travail très très exigeant.
Super.
Voilà.
On arrive malheureusement à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter auquel un sujet qu'on n'aurait pas abordé pendant l'interview?
Passer un message.
Que je suis très heureuse d'être là. Ça me fait chaud au cœur de voir Harmony, Tech Time aussi bien accueillis. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec l'équipe aussi avec qui je travaille, et je continuerai à me défoncer pour les jeux pour la suite, vraiment, parce que je j'aime ce que je fais, quoi. Voilà.
Super. Merci beaucoup, Maëva, d'avoir pris le temps d'être venue nous voir.
Ouais.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt, et surtout,
jouez bien.